auditeurs, chères auditrices de Radio Galère, bonjour. Une nouvelle émission de Maître Résistance, 19h-20h tous les lundis, l'émission de toutes les résistances au passé, au présent et au futur. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de l'actualité, une actualité qui est marquée par deux pays que l'on peut considérer comme deux pays jumeaux, la France et l'Algérie. La France et l'Algérie vivent en ce moment tous les deux une crise institutionnelle majeure qui pourrait bien constituer un tournant dans leur histoire, aussi bien au niveau français qu'au niveau algérien. Alors, il va falloir d'abord, on va commencer par parler de la France, mais bien entendu, je pense que nos auditeurs ont compris qu'on allait parler à la fois de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes ce samedi en France, et puis de ce qui se passe en ce moment en Algérie avec le report des élections par Bouteflika, un président qui a déjà effectué plusieurs mandats présidentiels et qui représente une frange du pouvoir qui est en place depuis très longtemps, depuis l'indépendance de l'Algérie. Et l'engouement de la population algérienne qui descend dans les rues, alors que même que quand il y a eu les révolutions arabes dans les années 2000, l'Algérie était le seul pays qui n'avait pas eu sa vague de protestations et de manifestants. Alors, eh bien, aujourd'hui, les Algériens descendent massivement dans la rue et ils descendent sans violence, dans la dignité. C'est très important, donc ça signe c'est un pan de l'histoire de l'Algérie qui est à souligner. Je rappellerai que c'est très intéressant de pouvoir comparer ces deux pays, mais je n'ai pas fait exprès, c'est juste parce que en ce moment on parle des deux pays dans l'actualité et personne ne peut échapper à ce qui se passe en France et en Algérie. Ne serait-ce qu'en regardant les unes des journaux, c'est tantôt les gilets jaunes, tantôt les élections en Algérie. Et donc j'allais dire que ça tombe très bien parce que tout le monde sait que les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été privilégiées. Elles n'ont pas toujours été amicales, il y a eu une guerre majeure, il y a eu un phénomène de colonisation qui a duré longtemps. Il y a des rancœurs, il y a des actes manqués, il y a encore des conflits et également des choses qui n'ont pas encore été digérées de part et d'autre de la Méditerranée, aussi bien chez les Français que chez les Algériens. Mais ces pays restent malgré tout deux pays qui ont un passé commun, un passé commun qui est très riche. Et j'allais presque dire qu'on peut souhaiter qu'aujourd'hui, que les vieilles rancœurs du passé peuvent envisager de commencer à s'éteindre grâce, bien entendu, à un travail. Ça ne va pas se faire tout seul. On pourrait dire qu'entre les deux pays, il y a beaucoup d'amitié, de la coopération et une habitude de partenariat qu'il faut maintenir. Et ce n'est pas rien si aujourd'hui les deux pays sont en crise institutionnelle. On pourrait se dire que c'est peut-être plutôt un côté positif puisque finalement, peut-être que par là même, ces deux pays vont retrouver le fil de l'amitié qui aurait dû toujours les lier et qu'ils vont pouvoir s'entraider, s'aider l'un et l'autre, puisque tout le monde le sait, leurs populations respectives sont profondément touchées pour une grande partie d'entre elles par ce qui se passe dans le pays jumeau, dans le pays voisin. Je pense à la diaspora algérienne qui est en France, qui est très nombreuse, et puis également aux enfants de la deuxième ou de la troisième génération qui s'entraident, qui montent des liens et des réseaux de coopération, qui commencent à s'intéresser au pays dont sont issus leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis, je pense aussi à tous ces Français qui ont vécu en Algérie, ou peut-être même à certains qui sont retournés y habiter, ou ceux qui vivent en France mais qui y ont vécu très longtemps et qui ont gardé un engouement pour ce pays-là et un attachement. Et donc je pense qu'aujourd'hui il est temps que ces deux pays fassent preuve de coopération et d'amitié. Il faut dire que pour reparler de la France de toute façon elle a deux partenaires jumeaux. Il y a l'Angleterre au nord, et là c'est une bonne chose pour elle, parce que l'Angleterre c'est pareil, le Royaume-Uni est un pays avec lequel la France a longtemps vécu des choses pas toujours drôles, des périodes troubles, des guerres, des querelles. On pense par exemple à la guerre de 100 ans, mais c'est aussi un pays qui a toujours su, quand c'était le moment, faire preuve de fraternité, de coopération avec la France. Je pense par exemple à 1945, à la libération et à la résistance. Je pense à la lutte contre la nazification qu'on devait notamment à la monarchie britannique et à Winston Churchill. Et puis je pense aussi à ce qui s'est passé après. Il y a eu des liens et ne serait-ce qu'en 2007, nous avons eu 2 traités de coopération militaire et de défense entre le Royaume-Uni et la France. Ça, on n'en parle pas souvent, ce sont des traités bilatéraux, donc hors Union européenne. Donc il faut compter dessus, nous sommes 2 pays jumeaux, et puis au sud, la France a la chance d'avoir un autre pays jumeau, qui est l'Algérie, qui a autant d'importance que le Royaume-Uni, même si c'est un pays qui a une configuration socio-économique différente, qui fonctionne différemment, qui fonctionne avec un climat, une géographie, des données économiques différentes. Chacun de ces 2 pays peuvent apporter beaucoup à la France, ne serait-ce d'abord que de la protection. Et ce sont 2 pays à privilégier, donc ne serait-ce que pour avancer dans le chemin vers la paix. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à l'Ouest. À l'Ouest, qu'est-ce qu'on a ? On a l'océan Atlantique. Alors on se demande toujours si un jour une île perdue va sortir ou pas de l'océan Atlantique pour pouvoir continuer à agrémenter le pré-carré de la France, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest. On est protégé au nord et au sud, mais à l'ouest, on ne sait pas encore bien où on en est. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'une île déserte va surgir ou est-ce qu'un jour, on va se rendre compte qu'on peut vraiment avoir des liens d'amitié sincères avec les Américains, ce qu'on peut souhaiter. Et puis, à l'est, nous avons l'Allemagne, un pays que l'on pourrait citer comme... on a ce fameux lièvre qui s'enfuit toujours au bon moment, c'est-à-dire au moment où on croit qu'on a mis le grappin dessus, comme par exemple en 1999, quand on a mis au point avec de nombreuses tractations et après avoir beaucoup insisté, nous Français, à l'euro. Et donc, est-ce que l'Allemagne, c'est ce fameux lièvre qui s'enfuit toujours au moment où on croit qu'on l'a attrapé ? C'est alors même qu'on continue d'entretenir la chimère d'une relation privilégiée et unique avec l'Allemagne, nous Français, on cherche désespérément à entretenir et à vouloir montrer que cette amitié-là existe, privilégiée existe. Alors que l'Allemagne a beaucoup d'autres partenaires de partout et que c'est un pays qui est très intéressant, un pays avec lequel nous avons des liens d'amitié, des liens d'histoire à conserver. On l'a bien montré avec le traité qui a été signé il n'y a pas très longtemps avec l'Allemagne, un traité de coopération et militaire et culturelle. Mais cela dit, il faut quand même essayer aussi d'être relativement neutre et objectif par rapport à notre position vis-à-vis de l'Allemagne. Nous ne sommes pas l'unique ami de l'Allemagne. Nous ne sommes pas les partenaires privilégiés de l'Allemagne, même si l'Allemagne nous aime beaucoup. Nous avons, au nord et au sud, des pays avec lesquels il est beaucoup plus facile de lier des liens d'amitié plus sûrs et stables. Sans vouloir dire pour autant qu'avec l'Allemagne, ça ne se passe pas bien et qu'il faut négliger l'Allemagne, pas du tout. Mais cela dit, il ne faut pas négliger le Nord et le Sud. Donc, ça, passons sur ces quelques points de géopolitique basiques, ça, vous m'excuserez. Nous allons maintenant parler de ce qui s'est passé samedi avec les casseurs. Donc, en France, nous avons des précédents en matière de violence. Ce qui s'est passé samedi, moi j'ai trouvé que c'était très très choquant. J'avais vu qu'il y avait déjà eu des violences assez importantes au mois de décembre et j'ai été très surprise de voir qu'on avait laissé faire encore une fois ce samedi. Alors même que les violences ont été particulièrement virulentes, quelqu'un m'a cité l'exemple de gilets jaunes qui attaquaient un immeuble, duquel on a vu une femme sortir avec un bébé, après avoir attendu longtemps de pouvoir sortir. Et puis, j'ai vu des images de certains gilets jaunes se jetant sur un CRS tout seul dans son camion. Et ils ont failli le mettre dehors son camion. Et ça a vraiment été très, très violent. Et j'ai vu ensuite ses collègues arriver pour l'aider. Ils ont éloigné les gilets jaunes. Mais tout ça, ça a été filmé. Alors, est-ce que ces gens-là vont subir une punition plus ou moins exemplaire? Je veux dire, dans le sens où il va falloir quand même montrer que l'atteinte à l'intégrité de la République à travers ses institutions, et notamment bon, la police, c'est quelque chose de grave. Et il faut que ces gens-là, bien loin de faire quelque chose de positif pour faire fonctionner la démocratie, portent atteinte à l'intégrité de l'État et par extension du peuple, puisqu'on est bien d'accord, l'État, c'est l'outil du peuple. Donc la sécurité des biens et des personnes n'est pas assurée. Donc, faut-il l'usage de la force? Ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière. Je laisse ça à un de mes collègues qui fait son émission le mercredi après-midi, qui parle de géopolitique et de sujets philosophiques. Je voudrais simplement signaler que nous avons des précédents en France. Certes, nous n'allons pas refaire ce qui s'est passé en Chine à la place Tiananmen, ni ce qui s'est fait sous la Commune, lorsque Adolphe Thiers a ordonné que sa garde fusille les manifestants. Mais il y a quand même, je pense, des mesures à prendre. J'allais citer un article que j'ai lu récemment, qui était assez intéressant, issu d'un nouveau livre sur le général de Gaulle. Alors, il y a eu beaucoup de livres sur le général de Gaulle qui sont sortis, mais celui-ci, il a l'air drôlement intéressant parce qu'il s'appelle « De Gaulle, 1969, l'autre révolution ». On sait comment ça s'est passé en 1968 et en 1969. Le général de Gaulle a décidé de partir parce que, d'abord, les Français, il y avait eu mai 68, où le général de Gaulle s'était senti un petit peu impuissant et peut-être en décalage par rapport à la société. Il a dû prendre comme ça, cela pour un désaveu de la population. Et ensuite, comme il y a eu l'échec de son référendum, le général de Gaulle a préféré partir en 1969. Et j'allais dire, donc c'est intéressant de lire ce livre, De Gaulle, 1969, l'autre révolution, de Arnaud Tessier, parce que justement, je crois qu'on n'a pas tout encore compris, l'impact de la révolution de 1968. 1968, qu'est-ce que c'est? Eh bien, beaucoup pensent que c'est un tournant dans l'histoire de la République française. Et j'allais dire, moi, ce n'est pas mon avis. Je ne pense pas que mai 68, c'est une révolution. Je pense que il s'agit simplement d'une période de trouble où, certes, il y avait des revendications tout à fait légitimes des Français par rapport à davantage de liberté et une évolution peut-être des mentalités en France. Cela dit, parce que c'était une société qui était très cloisonnée, très sclérosée, encore un petit peu archaïque. Donc c'était tout à fait légitime que les jeunes se réveillent. Mais cela dit, il faut quand même se méfier de certaines formes de gauchisme qui finissent toujours par dégénérer en populisme. Et en mai 68, c'était déjà le cas. Certes, il y a eu des écrits intéressants. Certes, la majorité de nos intellectuels d'aujourd'hui qui font parler d'eux sont issus de cette période de mai 68, mais gardons bien à l'esprit qu'en mai 68, il y avait aussi beaucoup de gens qui manifestaient comme ça parce que c'était amusant, on arrêtait de travailler, on remettait tout en question, c'était la grande liberté. Mais quelle liberté? C'était une liberté qui n'avait pas du tout été pensée, réfléchie à l'avance. Ce n'était même pas une forme d'anarchie, parce que l'anarchie, comme le dit Aristote, c'est un système qui est relativement intéressant, mais auquel on ne peut pas accéder comme ça d'un coup. Il faut d'abord passer par une certaine forme d'aristocratie. Mais attention, pas une aristocratie d'Ancien Régime. Ce que voulait dire Aristote dans son livre « Le politique », c'est que, déjà sous l'Antiquité, c'est que l'anarchie, l'aristocratie, c'est simplement une façon de mettre en place un système politique qui permettent à chacun de conserver sa dignité et son intégrité. Être aristocrate, c'est avoir des valeurs, c'est avoir un certain comportement qui ne va pas du tout avec les gens qui ont commis des actes de violence dans la rue en mai 68, ni avec ce que font certains gilets jaunes aujourd'hui. J'insiste sur certains gilets jaunes, puisque finalement, en fait, ces gens qui ont cassé sur les Champs-Élysées, ce ne sont pas des vrais gilets jaunes. Il y a d'autres gilets jaunes qui, eux, ont mis au point des choses concrètes et constructives et qui sont dans la réalisation, dans l'action. Je pense notamment à ces gens qui ont voulu se présenter aux législatives et constituer un mouvement représentatif de cette fraction de la population qui exprime un mécontentement et un dysfonctionnement social, mais également à toutes ces doléances qui ont été déposées grâce à la courtoisie des maires et des préfets en mairie, qui, suivant le calendrier gilet jaune du grand débat national qui a été fixé par le gouvernement et le président de la République, vont être relayés des mairies aux préfets, si ce n'est pas déjà fait, je crois que c'était cette semaine, puis ensuite des préfets à l'État. Et il ne fait pas de doute que ces doléances vont être examinées. Est-ce qu'il va y avoir des commissions qui vont être créées au Parlement, au moins à l'Assemblée nationale, où on ferait participer certaines volontaires des Gilets jaunes au débat parlementaire? Ce serait inédit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas créer des commissions spécifiques où on laisserait s'exprimer les Gilets jaunes et où on leur montrerait qu'effectivement, les doléances qui ont été recueillies et qui font récurrence sur le plan statistique puissent être examinés, faire l'objet d'écritures, de propositions de loi. Ça peut être une idée qui, en plus du fait que le président de la République se soit déplacé dans certaines régions pour débattre directement avec les maires de France, pourrait faire un éclat, pourrait montrer à la population française que l'État est à l'écoute. C'est une forme inédite et exceptionnelle de mise en place provisoire de souveraineté populaire, de démocratie populaire, sans pour autant remettre en question la représentation nationale. Bien entendu, il est hors de question de remettre en cause les institutions. Donc ces gilets jaunes d'aujourd'hui ne sont pas des aristocrates. Les gilets jaunes qui ont cassé, ceux qui ont été violents, n'ont pas du tout un comportement d'aristocrate dans le sens où ils ne respectent pas les valeurs de sécurité, de paix et de courtoisie que l'on peut attendre de la population française. Voilà pour ce qui est du cassage. Alors là, j'allais citer un passage de ce livre sur le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle a été confronté au même dilemme qu'Emmanuel Macron lorsque, en mai 68, les gens se sont révoltés et lorsque l'activité a été cessée. Alors, bien entendu, il y a une différence. Les gilets jaunes d'aujourd'hui qui cassent et qui font des manifestations, ils font ça le samedi. Et puis, en plus, ils cassent. Et en plus, ça n'a rien à voir avec l'immense vague de population qui s'est soulevée en mai 68. En mai 68, bien entendu, tout le monde était dans la rue. Aujourd'hui, on a juste quelques gilets jaunes qui ont envie de casser, qui viennent à Paris pour bien faire entendre pour que ça fasse beaucoup de bruit, qu'ils soient bien filmés, le samedi. Quels sont ces gens? Je ne les connais pas. Quelle est leur identité, leur histoire? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Personnellement, je ne vois pas beaucoup de différence avec les terroristes qui ont fait les attentats les attentats qu'on connaît. Je vois pas vraiment beaucoup de différence, donc c'est pour ça que je me dis que dans quelle mesure est-ce qu'on peut arrêter ces gens-là puisqu'ils n'apportent rien de positif. Justement, le général de Gaulle, donc sans vouloir comparer la situation de mai 68 où tout le monde était dans la rue et la situation actuelle où on a quelques gilets jaunes qui viennent casser sur les Champs-Élysées le samedi, je pense quand même qu'on peut comparer les deux situations dans le sens où le général de Gaulle et le gouvernement de l'époque ont été confrontés en mai 68 au cruel dilemme qui consiste à se dire est-ce qu'on utilise la force ou pas. La force a été utilisée, les CRS sont venus avec leur matraque, ça a matraqué. De là est venue la haine du CRS qui est restée longtemps, qui a constitué longtemps un étendard qu'ont brandi les contestataires nombreux, je pense notamment au Larzac, mais aussi après à d'autres manifestations plus ou moins légitimes. Et attention, c'est pas parce qu'on manifeste que c'est légitime. Des fois, ça l'était, des fois, ça l'était pas. Mais cette cassure sociale entre, d'un côté, les institutions et avec archétypé par la figure du CRS et de l'autre la population qui est gentille, elle est restée longtemps. Elle est encore très forte aujourd'hui, donc il y a des gens qui en jouent et qui en profitent. Et ça, il ne faut pas laisser faire parce que nous risquons de nous retrouver dans une situation où l'État sera en danger. Et si l'État est en danger, nous sommes en danger aussi, la sécurité des personnes n'est pas assurée. C'est pour ça que ce dilemme-là, qui vient que le général de Gaulle a confronté, auquel le général de Gaulle a été confronté en mai 68, il est encore d'actualité. J'allais citer ici en fait parce que dans un article du mardi 12 mars 2019, le journaliste Guillaume Perrault a recueilli des extraits du livre sur le général de Gaulle de Arnaud Tessier, De Gaulle 1969, l'autre révolution, chez Perrin. Arnaud Tessier est l'auteur. Et il cite un passage de Richelieu, sur Richelieu. Il dit, c'est une citation issue du livre que le journaliste rappelle dans son article du Figaro. Il nous dit sur Richelieu, c'est la tradition de Richelieu. Dans l'ordre de l'ordinaire, il faut respecter le droit comme il faut respecter les traités. Mais à la fin des fins, dans l'ordre de l'extraordinaire, donc je pense aux circonstances exceptionnelles qui sont dans la Constitution française de 1958 et qui rappellent un petit peu ce qui s'est passé ce samedi. Je continue ma citation. Mais à la fin des fins, dans l'ordre de l'extraordinaire, lorsque le sacrifice des formes est nécessaire, l'hésitation n'est pas permise au prince, sous peine de péché mortel. Ceux-là même qui se sauveraient comme personne privée se damnent parfois comme personne publique, écrit au seuil de la mort le cardinal Louis XIII dans son testament politique. Voilà. Donc, c'est intéressant, ça nous pose un questionnement, ça nous dit, est-ce que nous, Français, nous devrions faire preuve de maturité et accepter que la prochaine fois qu'il y a des violences aussi gratuites dans la capitale ou dans n'importe quelle autre ville, est-ce que l'on pourrait supposer que l'on puisse mettre le holà en évoquant les circonstances exceptionnelles de la Constitution de 1958 dont le président de la République est légitimement garant. Et je rappelle qu'il y a dans la Constitution de 1958 des mécanismes et des instruments qui permettent de régler certaines situations. Elles ne veulent pas dire qu'il faut taper sur les gens. Elles disent simplement que nous avons à être vigilants. Donc c'est l'article 36 de la Constitution de 1958 qui parle de l'état de siège. Alors bien entendu, j'emploie les grands mots. L'état de siège, on n'a même pas voulu le mettre en place lorsqu'il y avait les attentats en 2016. Mais, cela dit, on a quand même mis en place une forme plus ou moins intermédiaire entre l'état intermédiaire entre les pleins pouvoirs et l'état de siège. On a mis en place ce qu'on appelait l'état d'urgence. C'est une situation qui reconnaît que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles qui justifie pour la sécurité et l'intégrité des personnes et également l'intégrité de l'État que l'on suspende certaines libertés de manière provisoire. Et ça pourrait être le fait de suspendre, de peut-être interdire les manifestations si on voit que ça dégénère, et pourquoi pas de mettre en place une monopolisation de l'armée. Puisque de toute façon, en France, on a l'habitude de voir des soldats un peu de partout via l'opération Sentinelle. Donc pourquoi est-ce que les gens de manifestation, sans aller jusqu'à l'état de siège, sans aller jusqu'à suspendre le droit des gens de se déplacer librement ou d'être dehors après une certaine heure, là on irait trop loin. Mais pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à ce que les sentinelles puissent se déplacer, les hommes de sentinelles puissent se déplacer et être présents sur les lieux comme les Champs-Élysées ou ailleurs? Je pense que ce serait nécessaire, on a les moyens de le faire et les capacités pour éviter que ça recommence, mais aussi pour bien marquer la différence entre les revendications légitimes du peuple à manifester son mécontentement dans une logique pacifique, par des moyens comme la manifestation ou encore l'écriture de doléances, comme ça a été le cas et mis en place dans le cadre de l'opération Grand Débat, et faire bien la différence entre cette revendication-là qui est tout à fait légitime et qui est le gage d'un fonctionnement démocratique, pacifique, et celui des revendications qui n'en sont pas vraiment, qui sont complètement artificielles, qui sont des prétextes de la part de certains individus qui se servent de méthodes violentes comme ça, gratuitement, sans vraiment avoir de raison. Je pense que ce serait nécessaire. Voilà, c'est la question que je posais aujourd'hui. Moi, je sais que je ne suis pas la seule à avoir été choquée par ce qui s'est passé ce samedi. J'avais déjà été choquée au mois de décembre. Et voir que ça continue, c'est difficile à accepter. Nous allons passer maintenant un petit moment musical. Je propose que l'on passe les Blues Brothers, Riders in the Sky.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a-plowing through the ragged skies and up a cloudy draw.
The FBIA, the FBIO.
The ghost herd in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry.
Yippee-yi-yi, yippee-yi-yo.
Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they got to ride forever in that range up in the sky. On horses snorting fire, as they ride on, hear their cry.
Yippee-yi-yi.
As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you wanna save your soul from hell, a riding on a range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's herd,
across these endless skies.
Yippee-yi-yay.
Nous reprenons maintenant que nous avons écouté ce titre charmant qui est Riders in the Sky des Blues Brothers. Faut pas oublier que Marseille, c'est quand même la ville du jazz, avec Marseille Jazz Festival. Et puis tous ces chanteurs et musiciens de jazz qui écument les lieux publics le soir, by night, jusqu'à une heure tardive. Donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, nous avons parlé tout à l'heure... d'une manière de distinguer au niveau national les gilets jaunes qui ont contribué à mettre au point quelque chose de constructif en France sur le plan du recueil de doléances et de propositions qui pourraient conduire à améliorer le jeu législatif et réglementaire. Et puis, d'un autre, nous avons évoqué le fait qu'il y ait des casseurs, des gens qui se servent des gilets jaunes comme un prétexte pour casser, pour défouler leur haine de la société. Et ça, c'est dommage pour la sécurité des personnes et des biens. Et pour cela, nous avons évoqué tout à l'heure donc les différents degrés de mise en avant de la notion d'atteinte à l'intégrité de l'État, derrière laquelle, je rappelle, il y a la notion de protection des citoyens et de sécurité des citoyens, qui est le rôle numéro un de l'État. Et c'est très important. On n'est pas encore dans une guerre civile, mais enfin ça prend. En voyant les images de ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées, on en avait l'impression. Et pour cela, nous avons des instruments juridictionnels, nous avons des instruments constitutionnels présents dans la Constitution de 1958 qui met en place différents degrés de mise en avant des circonstances exceptionnelles. Et notamment, j'ai parlé de l'état de siège qui fait l'objet de l'article 36 de la Constitution. Alors certes... on ne va pas aller jusque-là. Certes, il y a la notion d'état d'urgence qui n'a pas encore été constitutionnalisée, qui va peut-être l'être un jour, qui est moins forte que celle d'état de siège. Mais je pense que nous devrions quand même y penser parce que nous sommes tous concernés par cela. Ce qui n'empêche pas que par ailleurs, et ça c'est plutôt positif, il y ait des choses concrètes qui soient ressorties du mouvement des Gilets jaunes. Et là, il y a donc tout un calendrier qui a été mis en place. Je l'ai dit tout à l'heure, de recueil des doléances au niveau des mairies, puis ensuite de relayer aux préfets, qui sont les représentants de l'État dans les départements et dans les régions, puis ensuite relayer au niveau national. Et je proposais tout à l'heure qu'il y ait des commissions spécifiques qui s'organisent au sein du débat au Parlement qui montrent aux Gilets jaunes lors de séances spécifiques que leurs doléances ont été entendues. C'est une idée que j'ai parmi... plein d'autres, il y a plein de gens qui ont eu plein d'idées de la manière dont on allait traiter ces données, mais j'espère qu'elles ne vont pas rester, elles ne vont pas faire l'objet d'un silence de la part de l'État. Et je voudrais aussi rajouter qu'elles ne sont pas les seules. Le peuple français n'a pas attendu jusqu'au dernier moment, jusqu'en 2019, pour faire entendre sa voix et émettre des suggestions qui pourraient faire l'objet de nouveaux projets de loi ou de nouvelles propositions. Bien au contraire, il n'a eu de cesse, depuis les doléances de 1789, de montrer que les idées, la souveraineté populaire, pouvaient être la source d'une avancée sociale. Et c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas assez écouté qu'aujourd'hui ça ne se passe pas bien. C'est peut-être à cause du silence que dont nos institutions ont fait preuve vis-à-vis de la population française que aujourd'hui ça se passe pas bien, qu'on remet en question les institutions comme l'ENA, qu'on remet en question la fonction publique, que l'on remet en question également le pouvoir des ministres, du gouvernement, mais aussi du président de la République, d'une manière souvent relativement éhontée, contre laquelle nous devrions lutter, puisque si on dénigre nos institutions, on se dénigre nous-mêmes. Et je disais, depuis 1789, les doléances n'ont cessé de fuser. Il y a eu une recrudescence avec vraiment un travail actif, un travail construit depuis 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes. C'est une période où des gens de l'Europe entière, et il y en a eu beaucoup de France, qui sont partis de chez eux, qui sont allés marcher un peu de partout à Athènes pour dire qu'ils en avaient un petit peu marre du système. Donc là, ce qu'ils revendiquaient, c'était la fin de la spéculation financière, mais également il y avait une remise en cause de la mondialisation et de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement, puisqu'elle fonctionne avec la mondialisation et ses aléas. Et enfin, on va dire une certaine forme de mondialisation, puisqu'on ne va pas non plus tout jeter par la fenêtre. L'échange extérieur, c'est bien aussi, mais il faut y mettre les formes. Et à cette époque-là, il y a eu beaucoup de groupes. Alors, je me souviens des indignés, des groupes des indignés qui travaillaient beaucoup qui travaillaient beaucoup en groupe collectif pour mettre au point des recueils de doléances. Et puis après, ça n'a pas arrêté. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu d'autres groupes politiques qui se sont créés comme ça dans la rue. En France, un peu de partout, dans toutes les grandes villes, où les gens ont fait émettre leurs doléances, de nouvelles idées, ils travaillaient ensemble, ils se réunissaient, ils s'asseyaient par terre sur les grandes places de France, un peu dans toutes les grandes villes, et pour discuter, pour débattre ensemble sur le modèle des indignés qui avaient lancé un petit peu le modèle. Ils ont émis eux aussi des doléances. Il y a eu un travail de fait, il y a des gens qui ont pris des notes, il y a eu un gros travail de prise de notes après 2008 dans le cadre des indignés, puis après avec les gens qui ont continué tout ça sous d'autres noms certes, mais ils ont toujours été là, c'était toujours les mêmes, c'était le peuple français. Et il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été dites dans le cadre associatif, par plein d'associations. Je pense aux associations pour l'amélioration de l'habitat, je pense aux associations du type Emmaüs, je pense aux associations contre le nucléaire. Elles sont très nombreuses, ces associations en françaises. Et si on voulait vraiment, on pourrait tout à fait mettre en place un système de représentation, au moins par le langage et par la communication, populaire. En France, nous sommes sous un système de représentation nationale, c'est tout à fait légitime, nous avons des députés que nous payons pour cela. Mais la souveraineté populaire peut aussi s'exprimer. Lorsqu'elle s'exprime, en manifestant dans la rue et en cassant, en dégradant des bâtiments publics, en cassant des vitrines de magasins, en agressant des personnes âgées, des femmes avec des bébés, des enfants, est-ce que vraiment on peut dire que nous avons réussi notre démocratie ? Je ne pense pas. Je pense que dans la Constitution française, nous ne laissons pas cette place à la représentation populaire. Alors après, il y a des gens qui vont dire « Vive le référendum d'initiative populaire ». Là non plus, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, alors que je viens d'exprimer mon engouement pour les modes de fonctionnement qui permettent à la souveraineté populaire de s'exprimer. Je pense que le référendum d'initiative populaire n'est pas une bonne idée, dans le sens où on ne peut pas remettre tout le temps en question le fonctionnement de l'État et des institutions. Si à chaque fois les citoyens se soulevaient et disaient arrêtez tout, arrêtez de discuter au Parlement, arrêtez de vous réunir au Conseil des ministres, écoutez-nous, nous allons bientôt mettre en place un référendum, puisque c'est un référendum d'initiative populaire, et nous allons voter pour cela. Et là, on bloque tout en attendant. Ça ne se passerait pas bien. Ce n'est pas au peuple de dire, de bloquer les institutions et le bon fonctionnement des institutions pour dire nous voulons un référendum. Il y a eu des avancées constitutionnelles qui permettent au peuple de s'exprimer, de remettre en cause le pouvoir d'État lorsqu'il abuse. Et je pense, outre les recours au tribunal administratif, au recours constitutionnel, et il y a cette fabuleuse innovation qui est la question prioritaire de constitutionnalité, où un groupe de personnes peut poser la question via un tribunal de savoir si telle ou telle mesure est constitutionnelle ou pas, et ça peut aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Donc c'est déjà une innovation majeure qui permet de garantir les droits des citoyens. Ensuite, la question du référendum d'initiative populaire, moi je l'écarte tout de suite, je ne suis pas d'accord, parce que ça conduit au populisme. Le populisme, c'est un avatar de la démocratie. Tocqueville le disait bien quand il évoquait les dangers de la démocratie après avoir observé ce qui se passait en Amérique, et qu'il disait que les esprits animaux, c'est-à-dire la foule, celle qui casse, c'est ce qui s'est passé ce samedi, prend le dessus sur le calme et le débat public. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il faut toujours qu'il y ait des institutions qui régulent tout cela. Deuxième chose, mais cela n'empêche pas, qu'il y ait des mécanismes de représentativité populaire qui soient mis en place, et on pourrait y réfléchir dessus. Ça pourrait être intéressant. Autre chose, il y a les élections européennes bientôt. Je ne pense pas non plus qu'il soit très opportun de doubler le débat propres élections européennes avec celui de la politique nationale française. Les Gilets jaunes pourraient éventuellement, effectivement, je crois qu'ils ont renoncé à le faire, se présenter aux prochaines élections européennes, et constituer une liste. Donc ils ne vont pas le faire, mais cependant, ils vont quand même. Il ne faudrait pas que les Gilets jaunes viennent pourrir le débat européen. Et souhaitons que ce ne soit pas le cas. Et espérons aussi également que les problématiques liées au débat des Gilets jaunes, liées aux revendications des Gilets jaunes, ne soient pas non plus évoquées ou traitées de manière organisée par l'État en même temps que les européennes pour faire coup double. Je ne pense pas non plus que ce soit une bonne idée. Deuxième chose. Je crois que j'en ai fini maintenant avec le traitement du cas français et des gilets jaunes et des violences qui ont eu lieu ce samedi. Simplement, je voulais juste conclure en disant que dans notre Constitution, nous avons des remèdes, qu'il ne faut pas remettre en cause l'État et son intégrité, qu'il faut savoir le défendre sans tomber dans la violence et la privation des libertés publiques de l'autre côté. Et j'allais dire également que notre Constitution peut être améliorée, et c'est à cela que nous devons travailler. Et il ne fait pas de doute que dans les revendications des Gilets jaunes, mais également celles qui sont issues de toutes les plateformes de travail issues de 2008 et de la crise des subprimes, qui n'ont pas arrêté, donc ça fait pratiquement 11 ans, il doit certainement y avoir des tas d'idées sur l'amélioration de la Constitution, voire pourquoi pas la mise en place un jour et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui serait la constitution de la 6e République, qui tiendrait compte de celle de 1958, qui est une constitution très équilibrée, enfin du moins jusqu'à ce qu'on mette en place le quinquennat, qui a quelque peu déséquilibré les rapports de pouvoir entre le président de la République et le gouvernement et le Parlement. Mais je pense qu'on devrait quand même, on devrait quand même pouvoir garder les bons côtés de la Constitution de 1958, parce qu'elle a des côtés très positifs, et c'est une Constitution qui a duré longtemps et qui a permis au pouvoir et aux institutions d'être stables et équilibrées. Et ça, c'est très important à l'heure où aujourd'hui cela est remis en cause. Deuxième chose, nous allons maintenant parler du cas algérien. Donc en Algérie, nous savons qu'il y a une immense vague populaire qui se réveille, alors même que les présidentielles ont été reportées. Je rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Le président Bouteflika voulait se représenter aux prochaines élections qui sont prévues pour le printemps 2019. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas pu le faire parce que la population s'est soulevée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, le président a fini par dire, étant trop vieux et trop fatigué, qu'il ne se représentait pas, et les élections ont été reportées. Nous allons écouter une chanson d'abord, avant de continuer à parler de l'avenir politique algérien. Une chanson qui est issue d'un double album qui était sorti en 1998 par trois maîtres du raï algérien. Je cite Khaled, Cheb Khaled, Fodel et Rachita. Alors, bien aujourd'hui, Rachita n'est plus là. Mais il est toujours présent à travers ses chansons et notamment ce double album qui porte un nom ensoleillé, puisque ces trois musiciens apportent le soleil. Ce sont des gens qui sont souvent en Algérie, mais aussi souvent en France, qui se sont produits dans les deux pays. Et il y avait, à l'issue de cet album 1, 2, 3 Soleil, qui est sorti en 1998, je le rappelle, il y a eu un concert qui est sorti, un concert magnifique avec les trois musiciens. Et on peut dire que ces gens-là, ils ont apporté le soleil du sud vers la France, mais aussi de la France vers le sud, vers l'Algérie. C'est-à-dire la bonne humeur, l'engouement, la créativité algérienne exportée en France. Et puis, d'un autre côté, peut-être certaines des valeurs de démocratie, mais également de liberté et peut-être d'une certaine façon de penser plus libérée de France. Ces artistes sont des artistes passerelles, d'où le titre de leur album 1, 2, 3 Soleil, ils apportent le soleil aux gens. Et j'ai choisi un titre qui s'appelle Cheba. Cheba, Cheb Khaled, Rachita et Fodel. We'll be right back. Donc voilà, alors ce samedi, même pendant que les gilets jaunes cassaient sur les Champs-Élysées, eh bien en Algérie, le peuple algérien s'est soulevé de manière massive. Tout le monde était dans la rue, dans toutes les grandes villes algériennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on compare à ce qui s'est passé en France, les choses se sont faites dans le calme, dans l'ordre, il n'y a pas eu de violence. Et on pouvait s'attendre au contraire, et non, pas du tout. L'armée n'est pas intervenue comme ça a pu être le cas dans les années 80. Ça a été pacifique. Et ça laisse, ça ouvre un regain d'espoir par rapport à l'avenir de l'Algérie. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, l'avenir politique de l'Algérie n'a pas été foisonnant. C'est le moins qu'on puisse dire. Souvenons-nous, en 1962, l'Algérie est indépendante, prend place au gouvernement le Front de Libération Nationale, prend le pouvoir. Il s'agit des personnes qui ont contribué largement à l'indépendance de l'Algérie. Et puis, ces personnes ont gardé le pouvoir pendant très 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 longtemps. On peut parler d'un pouvoir d'apparatchik. Un pouvoir d'apparatchik qui est marqué par la corruption, qui est marqué peut-être quelque part par un certain renouvellement de la domination de l'Occident et notamment de la France via les réseaux France-Africains sur la gouvernance algérienne. Et c'est ce qui explique que l'économie algérienne soit dans un état aussi catastrophique. Elle qui ne survit et qui n'apporte du profit que grâce à l'extraction du pétrole présent dans son sud et qui n'a pas su mettre en place un système d'économie suffisamment construit et pensé au niveau territorial. Comme tout système économique ne peut pas fonctionner correctement s'il n'a pas pour base ce que disait François Quesnay, la terre. La terre est la mère de tous les biens. L'Algérie a fauté là-dessus, elle n'a pas su voir ce qu'il fallait faire pour fonctionner correctement sur le plan économique. Et donc, nous avons donc un double enjeu, un enjeu politique et économique qui se joue aujourd'hui en Algérie. Cet enjeu-là, il pourrait se résoudre. Les manifestants ne sont pas contents que les élections présidentielles en Algérie soient reportées. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose finalement, parce que ça va laisser le temps au peuple algérien de faire émerger de vrais candidats démocratiques. Donc il y a la jeunesse algérienne, je cite ici un article, une interview de Samir Yayaoui. Samir Yayaoui est le responsable du mouvement citoyen Ibtikar, un mouvement citoyen qui est en pointe dans la mobilisation actuelle et qui travaille pour une transition démocratique depuis assez longtemps et qui donc intervient à point nommé et fait partie de ces mouvements de jeunesse qui sont aussi des mouvements intellectuels, qui intervient à point nommé à un moment de l'histoire algérienne où on a besoin d'un renouvellement au niveau des partis politiques et au niveau de la démocratie. Et il a été interviewé le mardi 12 mars 2019 dans Le Figaro. Donc je vais lire une partie de ce qu'il dit, parce que c'est intéressant. La question, c'était par Charles Jégu, journaliste au Figaro. La première question, c'était: l'Algérie est le pays de la jeunesse. Peut-on dire que les étudiants donnent le ton? Et là, Je lis ce que Samir Yayaoui répond. Si ce mouvement a un meneur, c'est la jeunesse. Et parmi elles, la jeunesse étudiante. Ils sont imbattables en informatique et le pouvoir est pris de vitesse par les ruses qu'ils emploient pour communiquer. Quand Internet a été coupé il y a quelques semaines, ils ont trouvé d'autres moyens d'échanger. Ils ont donc un leadership technologique et un poids démographique. Mais ils ne sont pas coupés de leurs aînés. Ils ont tous grandi dans des familles qui ont gardé la mémoire de 40 ans de démocratie. Une autre question, et là on va parler de quelque chose dont je parlais tout à l'heure, c'est sur la diaspora, parce que justement on peut se poser la question, beaucoup de discussions importantes sur l'avenir politique de l'Algérie se font en France via la diaspora qui est très bien installée et qui est très bien organisée en ce qui concerne le passage de la France à l'Algérie de manière très quotidienne par des voyages très fréquents entre la France et l'Algérie. C'est pour ça que je dis que ce jumelage-là entre la France et l'Algérie est une manne et une opportunité pour nous les Français et pour les Algériens aussi bien que pour les Algériens. C'est là-dessus que doit se construire la fraternité, la coopération franco-algérienne. Et donc cette diaspora discute, elle est souvent en Algérie, elle est souvent en France. Et là, il y a la question de Charles Jégu à Samir Yayaoui qui intervient. Charles Jégu demande à Samir Yayaoui: la diaspora n'est-elle pas en décalage avec la rue algérienne qui plébiscite un Rachid Nekaz? Et Samir Yayaoui répond: je ne pense pas, nous sommes en symbiose avec les Algériens d'Algérie. Nos familles sont là-bas et on y voyage souvent. Regardez les slogans et les valeurs que défendent les manifestants. Ils ont la même maturité politique que nous. Quant à Rachid Nekaz, nous connaissons cet homme depuis longtemps. Il n'est pas sérieux et sa disgrâce devrait arriver rapidement, car les Algériens vont voir qu'ils ne respectent aucune des règles de droit pour lesquelles ils se battent en ce moment. Voilà. Donc, bien entendu, comme dans toute élection, il y a toujours, d'envergure nationale comme celle-ci, il y a toujours des pitres, des saltimbanques de la politique, j'allais dire, qui se réveillent et qui font des candidatures fantoches, j'allais dire. Il faut s'en méfier. Parfois, ce sont des gens qui ont les moyens financièrement de le faire. Et là-dessus, il faut être relativement vigilant parce que la politique, c'est pas juste une question de moyens financiers. Ça ne devrait pas l'être. Il devrait y avoir des institutions qui permettent qu'on n'ait pas besoin d'avoir d'argent pour faire de la politique. Et c'est le cas de Rachid Nekaz. Ce dernier avait appelé à marcher, les Algériens à marcher le vendredi 22 mars vers le siège de la présidence de la République. Il fait beaucoup de bruit en Algérie et il est assez controversé parce que pour beaucoup d'Algériens, c'est un chef d'entreprise. Il avait d'ailleurs déposé son dossier de candidature au nom d'un homonyme pour contourner la loi qui lui interdit de se présenter. En plus, donc c'était pas du tout légitime qu'il se présente. Et il faut se méfier de ces gens-là parce que l'Algérie, qui n'a pas l'habitude de la gouvernance démocratique, pourrait se faire avoir une deuxième fois. Donc attention à ne pas plébisciter des candidats fantoches. Samir Yayaoui, qui fait partie de ce mouvement citoyen, et je rappelle bien entendu qu'il n'y a pas que ce mouvement qui existe, il y en a plusieurs. Souhaitons que ces gens-là puissent se réunir entre eux et s'entendre. Au-delà des disparités liées aux différences culturelles ou régionales algériennes. Et j'ai pris Samir Yayaoui parce qu'il a fait l'objet d'une page complète d'interview dans le Figaro. Et donc, j'ai trouvé que l'interview était intéressante. Et donc, il faut se méfier des candidats fantoches, de l'engouement brutal des populations pour des hommes providentiels. Et je pense que les Algériens doivent vraiment, même s'ils doivent pour cela demander à nouveau le report des élections, encore un délai supplémentaire, ils doivent vraiment en profiter pour qu'il y ait une nouvelle plateforme de laquelle seraient issus des candidats qui puissent mettre en avant des programmes politiques qui tiennent la route et qui notamment proposent quelque chose de concret sur le plan économique, autre chose que de vendre du pétrole ou de faire de la création monétaire pour augmenter la consommation et l'investissement, alors qu'on ne peut pas suivre derrière, que ces gens-là, qu'il y ait vraiment quelque chose de concret qui se mette en place pour que le peuple algérien puisse enfin se lancer dans les joies de l'alternance démocratique. Voilà. Et il y a le débat public, et là, j'étais très contente de voir que les Algériens allaient tous dans la rue, qu'on voyait autant d'hommes que de femmes, qu'on voyait aussi beaucoup de jeunes, parce que la jeunesse algérienne, c'est une jeunesse qui est très créative, qui n'attend qu'une chose, c'est que les choses s'améliorent sur le plan économique pour pouvoir profiter des infrastructures et de tout ce que l'Algérie peut offrir en matière de richesse pour pouvoir construire leur pays en fraternité. Voilà. Voici donc pour cette émission spéciale France-Algérie, spéciale Algérie-France. Et j'espère que des deux côtés de la Méditerranée, nous allons pouvoir enfin mettre en place des institutions durables et des ententes économiques et politiques qui tiennent la route et qui se fassent en parfaite transparence sans qu'il y ait des choses cachées qui pourraient entraver le fonctionnement vers la démocratie, la paix et la liberté. C'était une nouvelle émission de Mai de Résistance, Radio Galère, tous les lundis de 19h à 20h. Merci chers auditeurs, passez une excellente semaine, à la semaine prochaine.